Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Salut tout le monde, c'est Mathieu Laurentin qui remplace pour la session de septembre Hervé Thomas dans La Gueule Ouverte, l'émission d'Attaque Marseille sur Radio Galère. Aujourd'hui, on rentre de vacances, donc on va vous parler des vacances et plus particulièrement de l'université d'été d'Attaque qui s'est déroulée du 25 au 28 août à la Fac Saint-Charles à Marseille, chez nous, et pour lesquels les retours étaient extrêmement bons. On a compté à peu près 1 000 000 de personnes présentes sur la semaine, de nombreux ateliers. On a vu des gens ressortir plutôt très heureux. Et on va entamer du coup cette rentrée par une première série d'interviews d'associations qui étaient présentes.
Bonjour, je ne connaissais pas cette association ICANN.
Donc ICANN, c'est pas une ICANN, oui, c'est pas une association, mais c'est une campagne internationale qui a été lancée en 2007. Donc qui rassemble au niveau mondial à peu près 400 associations dans le monde, dans 95 pays. Et en France, on est une 60aine d'associations qui se sont regroupées pour mener une campagne pour interdire les armes nucléaires.
Une interdiction de l'arme nucléaire, pas du nucléaire.
Non, ça concerne vraiment l'arme nucléaire, puisque c'est la seule arme de destruction massive qui n'a pas encore de traité d'interdiction. Les armes chimiques ou les armes biologiques ont été interdites par des traités. Donc bien sûr, il y a encore tous les États ne le mettent pas en œuvre, mais c'est en voie de mise en œuvre. Alors que les armes nucléaires, non, il n'y a aucun traité d'interdiction. Elles sont donc de fait utilisables par les États qui les possèdent. Bien sûr, hein, ce n'est pas une question de dire que certains morts seraient moins importants que d'autres, mais c'est pour justement, c'est bien pour ça qu'on n'est pas un mouvement en tant que tel, mais c'est une campagne rassemblant ces mouvements, dont le mouvement de la paix, dont tout un tas de structures, dont Attaque d'ailleurs en fait partie aussi, pour essayer de se concentrer à un moment donné tous ensemble sur un axe précis de façon à l'obtenir. Parce que ça fait 70 ans que des gens se battent contre les armes nucléaires, enfin depuis qu'elles existent, et pour autant on n'arrive pas à progresser sur cette question. Donc c'est à un moment donné se focaliser, comme ça a pu être fait sur les mines antipersonnelles ou sur les bombes à sous-munitions, où une coalition s'est mise en place et a pu obtenir l'interdiction de ces armes-là. C'est la même logique, c'est essayer de se concentrer pendant quelques années pour obtenir cette interdiction, que se mette en place un processus d'élimination. On sait bien que ça ne se fait pas en 8 jours, hein, on n'est pas naïf. Et donc c'est ça l'objectif de ICANN.
Voilà, oui, je comprends bien. Donc c'est un objectif gagnable, en tout cas très, très formulable, y compris dans le cadre actuel.
Tout à fait, toutes les organisations qui sont dans ICANN ne sont pas sur les mêmes thématiques, mais sont concernées par la question des armes nucléaires, qui est un espèce de verrou au niveau international et du Conseil de sécurité, puisque bon, c'est les 5 du Conseil, membres permanents du Conseil de sécurité qui gèrent le monde actuellement, qui sont aussi les possesseurs des armes nucléaires, et donc qui bloquent toute évolution du Conseil de sécurité, qui aurait aussi des conséquences sur tous les autres domaines. C'est pour ça qu'elles se sont concentrées ensemble pendant un temps donné sur cette campagne, pour essayer de faire aussi sauter ce verrou-là, qui est au niveau international, qui pèse sur l'ensemble des campagnes qu'on peut mener chacun différemment dans son coin.
Alors les échéances là de votre campagne, il y en a ?
Oui, bien sûr, parce que tous les ans, donc, il y a l'Assemblée générale de l'ONU, dans lequel un certain nombre d'États qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire, qui ont fait le choix de ne pas être dotés, vont lancer au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, pendant la prochaine, donc, qui démarre à l'automne, en octobre, ce qu'on appelle, alors dans le langage technique effectivement de l'ONU, un groupe de travail qui va permettre d'élaborer ce traité. Et les États non dotés de l'arme nucléaire sont majoritaires par rapport aux États dotés de l'arme nucléaire. Ils sont que 9 États dans le monde, dont les 5 du Conseil de sécurité, plus 4 autres qui ont l'arme nucléaire. Et donc du coup, ce processus devrait amener à voter le traité d'interdiction et faire une pression sur les États dotés pour qu'ils le rejoignent et qu'ils se lancent dans un processus d'élimination. Alors je ne vous dis pas c'est pour demain matin, mais c'est un processus qui est lancé, effectivement.
À l'ONU, vous avez déjà des soutiens d'États qui se sont affirmés pour cette campagne ?
Oui, depuis 2013, à partir de la Norvège, qui a lancé une première conférence intergouvernementale où il y avait une centaine d'États présents. Et il y en a eu deux autres qui ont suivi, justement sur les conséquences des armes nucléaires et donc la perspective de leur élimination. La deuxième a eu lieu au Mexique et la troisième à Vienne, en Autriche, où il y avait 140 États qui étaient présents, dont 110 qui se sont engagés à combler le vide juridique. Là encore, on tombe dans les langages de l'ONU, mais ce qui veut dire justement à mettre en place un traité d'interdiction. Donc 110 États, c'est la majorité, et l'ONU, normalement, une voix, un État égale une voix.
Merci. Bonjour, bon, ça c'est le rayon association de soutien à la Palestine, et vous êtes...
Alors nous, on est Palestine 13 et on est le groupe local de l'association France-Palestine Solidarité pour Marseille, ou les Bouches-du-Rhône, voilà.
D'accord, donc tu peux nous dire si ça se passe bien là, si vous avez de la visite, si l'huile de Palestine part.
Alors ça se passe très bien, il y a pas mal de gens qui... Enfin, ce qu'on remarque par rapport à d'autres tables qu'on peut faire dans d'autres lieux, c'est que ce sont des personnes qui dans l'ensemble sont assez averties de ce qui se passe au Moyen-Orient et donc ne questionnent pas énormément sur la situation parce que a priori ils sont déjà au courant. Oui, on a fini complètement le za'atar, donc qui est cette épice qu'on vous sert très facilement au Moyen-Orient, qu'on trempe dans du pain et de l'huile. Et donc ça, c'est tout parti. Et l'huile d'olive part également pas mal parce que voilà, c'est une forme de solidarité avec le peuple palestinien et les Cisjordaniens en particulier, puisque c'est de l'huile qui vient de Cisjordanie. Voilà.
D'accord. Oui, donc c'est certain qu'ici, les gens sont plus avertis, mais il y a quand même des jeunes qui sont pas forcément, enfin on en voit un peu, bon il y a beaucoup de têtes blanches, hein, mais moi je trouve qu'il y a quand même un âge et un peu étudiant qui passe aussi.
Oui, bon, on les a pas trop vus sur la table. Si, il y a eu une discussion avec une jeune qui se sentait très entre deux eaux, entre ses convictions et le fait qu'elle était juive de culture religieuse. Donc il y a eu un bon débat avec elle. Mais voilà, sinon c'est vrai que même les jeunes ont quand même l'air, ou alors peut-être qu'ils se questionnent pas trop sur la question, mais enfin on n'a pas eu trop de débats. Il faut dire aussi que le rythme de l'université est assez soutenu, puisqu'en gros on voit les gens un peu de 9h à 9h30, on les voit un petit peu une demi-heure entre deux, et puis après ils vont manger. Enfin voilà, on a des petites planches horaires qui leur laissent pas beaucoup de temps, le temps de faire le tour de toutes les tables associatives, ils n'ont pas énormément de temps pour discuter.
Merci. Bonjour, alors c'est le stand d'attaque. Vous êtes content de cette université ?
Pour le moment, oui, hein, mais il faut attendre la fin quand même.
Là, donc, vous, sur le stand d'attaque, vous faites part des diverses campagnes ?
Non, ce sont tous les ouvrages qui ont été écrits par... qui ont le label d'attaque, on va dire, qui ont été écrits par soit des membres d'attaque, soit en partenariat avec d'autres associations, comme par exemple celui-là, là, le livre noir des banques. C'est à la fois attaque et Basta qui ont fait ce travail en commun. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus à attaque, c'est de faire des choses en partenariat avec d'autres associations qui ont le même genre de préoccupations que nous.
Et voilà, nous voilà de retour après cette petite pause multi-associative pour revenir sous un format université d'été vers quelques ateliers. On va parler un petit peu du climat, des communs, peut-être de la dette, de TAFTA. Et ça va nous permettre de faire le lien avec les campagnes en cours d'Attaque France et de ce qui se passe ici à Marseille. Alors par exemple, sur le climat, on est bien aidé par une belle couverture de la Marseillaise, de l'événement l'université d'été d'attaque. Et alors, par exemple, sur le climat, on a pu parler de rapports engageants à faire une réelle transition énergétique pour la question de l'emploi, avec la possibilité de créer des millions d'emplois grâce au climat. Alors, on retrouve ici toutes les petites subtilités internes à attaque, certains parlant de nationalisation des secteurs de l'énergie et du transport. On a aussi entendu parler évidemment du moratoire sur les gaz de schiste. On a appelé à l'aide dans notre réflexion Le syndicat des mineurs d'Afrique du Sud, le syndicat COSATU, qui avait lui-même repris l'idée d'emploi climatique, qui montre que la question de climat contre emploi est une question qui se pose dans le monde entier et qu'elle est prise en compte par le mouvement social. On a eu évidemment Gardanne, avec la question de Ion et de la centrale à biomasse de Gardanne, qui est venue enrichir le débat avec des choses locales. Et puis, d'un point de vue syndical, une idée assez intéressante qui est la sécurisation du statut du salarié, en particulier dans un domaine comme l'énergie, qui, comme son nom l'indique, est en transition. Et donc permettre aux travailleurs du secteur de l'énergie qui est en transition de sécuriser leur emploi tout en allant vers des productions d'énergie plus propres. Évidemment, la décentralisation avec des projets tels que ceux d'énergie partagée et la question lancinante de comment baisser le niveau de CO2 si on augmente toujours la production d'électricité. Ensuite, il a été beaucoup insisté sur la question du changement individuel, puisque se sont affrontés différents points de vue sur est-ce qu'il faut faire un lien entre le pollueur et l'exploiteur de travailleurs, entre le pollueur payeur, et aussi prendre compte nous-mêmes de notre impact au quotidien sur toutes ces effets polluants, même s'ils impliquent l'intervention de multinationales. Et donc, par exemple, le fait de quitter EDF pour rejoindre un fournisseur d'énergie propre comme Enercoop, même si là encore, ultime rebond sur ce débat du climat, on est venu apporter de l'eau au moulin en rappelant que pour faire des éoliennes, il faut de l'acier et donc il faut en produire. Mais cette actualité sur le climat, en tant qu'atelier de l'université d'été d'Attaque, permet aussi de rappeler la sortie du livre Crime climatique stop, qui est sorti fin août et qui est coédité par Attaque et 350.org. C'est donc un appel de la société civile, 3 mois avant la conférence climatique de Paris. C'est un ouvrage qui dénonce l'absence de prise en compte de l'urgence climatique pointée par les scientifiques et qui dévoile un appel de la société civile pour l'insurrection et la mobilisation de toutes et de tous pour sortir d'un modèle économique fossile, criminel. On notera qu'il est notamment initié par Naomi Klein, Desmond Tutu, Vandana Shiva, Marie-Monique Robin ou encore Noam Chomsky, et qu'il s'accompagne notamment d'un appel à signer en ligne sur crime climatique au pluriel, crimeclimatiquestop.org. Et on va repartir pour une petite session, un petit voyage dans le hall avec les stands associatifs, avec une deuxième série d'interviews.
Bonjour, alors tu es au stand d'Attaque, pilier depuis le début, là, ça se passe bien cette université, vous êtes content ?
Oui, ça se passe très bien. On a beaucoup plus de monde que prévu. On doit être, à mon avis, dans les 750 à 800 personnes, plus une centaine d'intervenants, les bénévoles, la presse, etc. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 1000 personnes à peu près. Voilà. Et puis les gens sont aussi en fait très intéressés par le stand de livres, etc. Il y a beaucoup de livres qui s'achètent, surtout celui sur la vérité sur la dette grecque qui a été fait avec Eric Toussaint. Et puis sinon, nous, Attaque France, on a sorti en fait 2 livres sur le climat en vue de préparer la COP21.
Ah d'accord. Et donc ces livres, si tu veux nous en parler, tu les as lus ?
Non, en fait, je ne les ai pas encore lus là parce qu'ils viennent tout juste de sortir pour en librairie. Et j'étais pas parmi en fait les auteurs, donc voilà.
Ok.
Mais j'ai toute confiance dans les auteurs d'Attaque sur le sujet.
Ouais, moi hier j'ai acheté le petit manuel de la transition parce que ça m'a paru assez abordable, pas trop économique, mais voilà. Oui, ça m'étonne pas que la vérité sur la dette grecque soit vendue parce que à la plénière Eric Toussaint nous en a parlé.
Promotion, tout à fait. Oui, tout à fait.
Donc c'est certain qu'il nous disait qu'il était particulièrement clair et qu'il fallait l'acheter, quoi. Voilà. Bon, ben merci.
Merci également.
Donc bonjour, le CADTM, il existe depuis longtemps, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. et vous êtes devenu très audible, en particulier depuis que des pays européens ont été un peu concernés par ce problème.
Oui, donc le CADTM, en fait, on fête nos 25 ans cette année, puisqu'on a été créé en 1990. Et c'est vrai qu'au départ, c'était surtout sur la question de la dette publique des pays du Sud, des pays dits du tiers-monde. Et déjà avec la crise 2007-2008, c'était, si on peut dire, une opportunité pour nous, parce que comme les gens vivaient la crise de dette souveraine chez eux, en France, en Belgique, en Grèce, notre discours sur la dette du tiers-monde était beaucoup plus audible. Et là, on passe encore une vitesse supérieure, parce qu'avec la question de la Grèce, question épineuse, là, on voit aussi que notre discours arrive à être audible, puisque la stratégie choisie par Alexis Tsipras de négocier et de pouvoir arracher un compromis via la négociation n'a pas marché. Et du coup, nous, notre position sur poser des actes unilatéraux basés sur des arguments juridiques, eh ben, on sent que ça prend un peu plus dans ce contexte-là.
Oui. Et donc, avant 2007-2008, vous avez obtenu des succès?
Avant 2007, après, ça dépend ce qu'on appelle succès, parce que c'est vrai que...
Oui, enfin, au départ, disons qu'il y a eu, je me rappelle, d'annonces de pays, je ne sais pas, le Burkina, enfin, dont on a dit quand même qu'on annulait au moins des portions de dettes.
Alors nous, quand on nous demande est-ce qu'il y a déjà eu des annulations de dettes, c'est vrai qu'on cite que l'Équateur et la Norvège, qui a été une annulation de la part des créanciers. Mais pour nous, la seule vraie annulation de dette, c'est l'Équateur 2009. Donc avant 2007, pour répondre à votre question, on n'a pas de véritable succès. Et justement, pour nous, il faut se méfier de justement la France qui annonce avoir annulé là récemment la dette, une partie de la dette malienne, ou l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, où on a annoncé en grande pompe qu'on avait allégé la dette des pays du tiers-monde. Et en fait, non, on a juste permis qu'ils soufflent un peu pour pas qu'ils se noient et qu'ils continuent à rembourser. Et ces allègements ont été aussi prétexte à continuer des politiques d'austérité, les PAS, les plans d'ajustement structurel, qui ont détruit complètement l'économie et le tissu social des pays du Sud. Donc il faut se méfier des discours d'annoncer en grande pompe les annulations de dettes.
Et donc tu peux nous détailler, par exemple, ce dernier point-là sur le Mali et la France?
Malheureusement, non. Il faudrait peut-être plus demander au CADTM France, qui a beaucoup travaillé dessus, forcément, puisque c'est la question de la France et du Mali. Donc peut-être poser la question à des émetteurs français, parce que moi, je sais qu'il y a eu une annonce d'une partie de la dette bilatérale, mais que ça représente finalement pas grand-chose et que ça ne réglera pas du tout le problème de la dette malienne.
Merci. Bonjour, alors c'est la Voix du Matin, hein, librairie Transit. Alors ça marche les affaires?
Bonjour, oui, c'est intéressant, oui, ça marche, oui, on va dire comme ça.
Donc là tu es à l'université d'été d'Attaque et finalement il y a pas mal de monde qui passe. Les livres que les gens prennent, c'est quoi en général?
Il y a pas mal de monde qui passe effectivement. Alors les livres que les gens prennent... C'est beaucoup sur l'écologie, beaucoup sur l'économie aussi. Voilà. Après, il y a des domaines, effectivement, où il y a, par contre, ça part peu, c'est curieux. Sur internationalisme, notamment, et féminisme. Voilà, mais bon, peut-être que c'est aussi par rapport aux ateliers ou aux plénières qu'il y a à Attaque. Voilà, ça, les gens achètent en fonction de ce qu'ils ont écouté, des plénières qu'il y a eu.
Peut-être aussi, sur féminisme, le choix, parce que... C'est pas le mien, par exemple, les bouquins de la librairie Transit.
Voilà, un cercle de travail des femmes, je vois pas en quoi ça... Un cercle de travail des femmes, quand même, c'est important. La revue sur enseigner le genre, je vois pas ce qui est problématique.
Non,
il y a peut-être un livre, effectivement, qui s'appelle « Féministe blanche et l'Empire », voilà, qui est un peu, effectivement, une remise en cause du féminisme occidental tel qu'il est. Mais après, les autres livres, Mona Chollet, on ne peut pas dire que ce soit une féministe controversée. Voilà, enfin, non, je ne pense pas, non. Justement, je pense que j'ai amené justement un rayon féministe relativement sobre, on va dire. Voilà, j'aurais pu en amener d'autres, effectivement.
Bon, Hier, je m'y suis penchée, moi, pourtant. Bon, j'ai pas vu, sans doute, je connais pas assez les noms des auteurs aussi, hein, pour choisir tout, mais bon, voilà.
Il y a quand même un grand classique qui s'appelle Race, femme et classe, quand même, d'Angela Davis. Je suis pas sûr que ça soit quand même, je pense que quand même ça peut faire consensus, quand même, ce genre de...
Tout à fait, oui.
Voilà, je vous dis Mona Chollet, je vous dis, il y a Christine Delphi, enfin, il y a quand même des féministes, voilà, c'est pas...
Oui. Christine Delphi, elle fait partie des gens qui peuvent être contestés dans ces prises de position actuelles. Mais c'est sûr que Angela Davis, mais je l'ai déjà, par exemple, celui-là. Bon, on va pas faire le débat là-dessus. Donc voilà, et internationalisme non plus, alors ça part pas beaucoup.
Non, après, c'est pas un gros, j'ai pas amené un gros rayon, mais oui, je trouve que c'est, voilà, bon, ça a pas, sur la Palestine un petit peu aussi, voilà. Voilà, sur la Palestine.
Par contre, hier, c'était beau les films, tu es venu ?
Et non, j'ai pas pu venir, non, hier soir, oui, c'est 18 fugitives. Non, j'ai pas vu, ouais.
Ok, mais il y avait un peu de monde et c'était chouette. Merci.
De rien.
Et voilà, nous voilà de retour dans les chambres et les salles d'atelier. Et on va parler accord de libre-échange, puisque ça s'inscrit encore une fois dans les grandes campagnes d'attaque. Suzanne Georges a fait une interview avec la Marseillaise. Et ça a été l'occasion de rappeler que supprimer l'Organisation mondiale du commerce, c'est pas forcément la priorité, mais les règles doivent être... modifié, et de rappeler que dès les années 40, c'était Keynes qui recommandait qu'un pays qui disposait d'un excédent commercial pendant un certain nombre d'années et un niveau donné devait être contraint de réévaluer sa monnaie pour vendre moins. Et le système inverse serait appliqué aux pays en déficit commercial durable et sévère. Et c'est ce système de régulation finalement qui est prôné par une partie des gens à attaque, et notamment par Suzanne Georges, qui aurait l'avantage de faire payer les États les plus riches ou de les contraindre à tenir compte de leurs partenaires. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles. Par exemple, le système de résolution des différends de l'OMC, qui est chargé de régler des désaccords entre deux États, est maintenant très utilisé, avec maintenant 500 cas. Or, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par l'OMC qui empêchent des régulations très utiles. Et donc les États n'ont pas pour l'instant un droit absolu de réguler certains secteurs, par exemple les domaines sanitaires, alimentaires, la protection de l'environnement. Et l'OMC est devenue aussi une chambre d'enregistrement d'accords bilatéraux entre deux États, alors qu'au départ elle devait organiser un libre-échange entre tous les pays multilatéral. Et on en a 34 000 à ce jour, 34 000 accords bilatéraux. Et d'ailleurs... il y a le TAFTA qui est bien pire que l'OMC, si on veut prendre des arguments pour défendre l'OMC. Le TAFTA, et même avant le NAFTA, l'ALENA en français, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord qui existe depuis maintenant 20 ans et dont les effets absolument désastreux sont utilisés par les contradicteurs du TAFTA à juste titre. Mais Suzanne George tient à rappeler qu'il est encore possible d'empêcher le TAFTA, puisque effectivement il devait être bouclé en 2014. Maintenant on comprend que ça ne pourra pas être fait en 2015. On voit qu'il y a des problèmes de communication entre les États-Unis et l'Europe, et entre l'Europe et les États européens. Et Obama semble avoir renoncé à cet aspect, alors que c'était censé être le pendant... Atlantique du TPP, l'accord de libre-échange transpacifique qui liait les États-Unis avec l'Asie du Sud-Est. Et c'est en luttant contre le TAFTA qu'on peut bloquer la position dominante des États-Unis, donc liée à ces deux traités dans le commerce international. Et Suzanne George de rappeler que la grande pétition Stop TTIP, donc je rappelle qui peut être signée sur stop-ttip.org, qui est une pétition européenne à aujourd'hui 2,5 voire 2,6 millions de signatures, que nous sommes dans les dernières semaines de signatures et que donc nous invitons tout le monde à aller signer en ligne. Il faut rappeler qu'en France, on a déjà dépassé notre quota à 500%, en Allemagne à 1600%, et on a de plus en plus de pays qui atteignent des quotas de signatures impressionnants. Et c'est d'ailleurs l'occasion de faire une petite actualité sur le TAFTA, puisque le TAFTA est aussi et surtout connu dans son processus par l'opacité totale qui l'entoure. Et c'est donc l'occasion de dire que cette semaine, fin août, plutôt en août, on a eu, c'était le site d'investigation allemand Correct TV, qui révélait le revirement de la Commission européenne sur la question de la transparence des négociations de TAFTA. On se rappelle que Cecilia Malmström était arrivée à la Direction générale du commerce de l'Europe en disant que toute la transparence serait faite sur les négociations du traité transatlantique. Or, des résumés qui existaient entre l'Europe et les pays membres de l'Union européenne à propos des négociations avec les États-Unis vont être supprimés. Et finalement, nous serons tous au même niveau d'information, sauf que ce ne seront pas les citoyens qui vont rejoindre l'information qu'ont les gouvernants des pays européens, mais plutôt l'inverse, pour désensibiliser les relations entre les États-Unis et l'Europe dans la négociation du TAFTA. Ensuite, on a le lobby de l'industrie du tabac, qu'on attendait de pied ferme. Et c'est là l'organisation bruxelloise Corporate Europe Observatory, CEO, qui rappelait le 26 août qu'après avoir 5 mois d'attente, alors que le délai légal est de 15 jours pour obtenir des informations sur le lobbying justement des géants du tabac sur les négociations commerciales, elle a eu droit à une contestation, elle a dû contester officiellement un premier refus et la commission a finalement répondu. Mais la commission a répondu, c'est un des problèmes de la radio, on s'en rend mieux compte avec l'image en face, en renvoyant des documents qui sont en fait à 90% censurés. Donc on a l'impression d'avoir des feuilles où, comme le souligne l'article, uniquement les phrases de politesse restent. Il reste absolument plus aucun nom, absolument plus aucun contenu. Tout a été rayé dans les grandes lignes. Et ce n'est que le deuxième vice de la transparence de ce mois d'août, puisque la direction du commerce a dû profiter des vacances. La fin, c'est le 26 août, c'est là l'Organisation américaine de défense des libertés numériques Electronic Frontier Foundation qui a publié une série d'emails échangés entre des lobbyistes et des négociateurs américains ici du TISA, l'accord géant sur le commerce des services auquel l'Union européenne participe également. Et ces emails révèlent l'effarante proximité entre les négociateurs et les lobbies. On peut donc se demander, quand les représentations des gouvernements se prennent pour les VRP des multinationales et qu'ils usent des traités de libre-échange comme leur outil privilégié, nos démocraties n'ont-elles pas du souci à se faire ? Et avant d'écouter un petit morceau de musique, c'est l'occasion, puisqu'on parle du TAFTA, de vous annoncer une date à Marseille, le mardi 3 novembre 2015, pour une rencontre débat à la Fac Saint-Charles à l'initiative des collectifs Stop TAFTA des Bouches-du-Rhône. Et vous pourrez y retrouver justement Suzanne Georges, que je citais tout à l'heure, la présidente d'honneur d'Attaque France, qui est auteur et co-auteur de nombreux livres en anglais et en français, dont son dernier Les Usurpateurs, justement sur le libre-échange et les lobbies, publié en 2014. Et elle sera accompagnée de Maxime Combe, qui fait partie du conseil scientifique d'Attaque et qui travaille essentiellement sur les questions des enjeux environnementaux et énergétiques. Le thème clinquant, traité de libre-échange, nos vies et le climat sont-ils à vendre ? Il sera donc question du TAFTA, du TTIP, du TISA, du CETA et de tous ces accords de libre-échange aux drôles d'acronymes. On vous donne donc rendez-vous à la Fac Saint-Charles le 3 novembre, avec un accueil à partir de 18h30 et des interventions à partir de 19h. Et on va laisser Georges Moustaki nous chanter Sans la nommer.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Nous voilà de retour après cette petite pause musicale. Et c'est de dette qu'on va parler, puisque la dette était effectivement... En haut de l'affiche, aux côtés du climat, la dette et évidemment son pendant, l'austérité, était à l'affiche de l'université d'été d'Attaque. Et donc, on a eu une grande conférence d'ouverture avec l'honneur d'accueillir Éric Toussaint du CADTM, dont on a entendu quelques membres tout à l'heure dans les interviews. Ça a été l'occasion ensuite de débattre tout au long de la semaine sur la question... de permanente sur la dette et notamment la dette grecque, puisque est sorti le livre La vérité sur la dette grecque, et donc les résultats de la commission de l'audit sur la dette grecque lancée par la présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou, avec l'appui de Éric Toussaint. La question lancinante, là encore, entre repli national ou confrontation avec les institutions européennes, ou encore utilisation de la question de la monnaie, qui est donc centrale sur la question de la dette, avec une dévaluation qui, à court terme, aide l'économie, dope la croissance, fait baisser le chômage, mais avec des effets incertains à plus long terme. L'occasion aussi de rappeler qu'il faut absolument séparer la dette privée de la dette publique, et les États doivent empêcher que la dette privée leur soit imposée. L'exemple, le grand exemple de l'Équateur de Rafael Correa, déjà appuyé par Éric Toussaint dans l'audit de sa tête. Et donc cette question de l'audit qui revient. Mais cette question de l'audit, elle va avec la question de l'austérité. Et ça tombe bien puisque des membres espagnols se lancent en partance de l'Espagne très bientôt pour rejoindre Bruxelles dans une grande marche contre l'austérité. Ils vont parcourir l'Europe, en tout cas traverser la France, et on aura l'occasion, l'honneur à Marseille de les rencontrer le 8 octobre. Ils seront de passage comme étape à Marseille, avec des activités prévues dans la journée et notamment le soir par le collectif Marseille avec les Grecs, dont Attaque est membre, Attaque Marseille est membre. Donc on peut se donner un rendez-vous le 8 octobre. Et avant de clore avec l'agenda, on va écouter un troisième morceau, puisque qui dit dette, j'ai dit qui dit dette dit austérité, mais il y a peut-être d'autres solutions, notamment la question de l'évasion fiscale. On va écouter un petit spot.
Tout a commencé le 12 février à l'agence HSBC de Bayonne.
Les militants de Bizy réquisitionnent 8 chaises pour protester contre l'impunité dont bénéficie la banque, organisatrice d'évasion fiscale à grande échelle.
On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et nous on dit, ben oui, l'argent il existe. L'argent de la transition écologique et sociale, il existe, il est dans les paradis fiscaux.
Ils remettent au directeur de l'agence un exemplaire du livre noir des banques, publié quelques jours auparavant par Attac et Basta.
Hasard heureux, cette publication avait coïncidé avec la révélation par Le Monde du scandale SwissLeaks.
Entre novembre 2006 et février 2007, pas moins de 180 milliards d'euros ont transité à Genève par les comptes HSBC de plus de 130 000 personnes physiques ou morales, dont plus de 3 000 Français.
Pour eux, plus de 20 000 sociétés offshore ont été créées dans les paradis fiscaux.
Juste après le forfait, Tchétché Tchévéri de Bizy appelle Attac pour un conseil technique. À combien estimer le préjudice subi par l'État français du fait des pratiques d'HSBC ?
Un rapide calcul permet de chiffrer la rançon qui sera demandée à la banque en échange de la restitution des chaises.
Environ 2,5 milliards d'euros. Mais la police entre en jeu et convoque les militants, tentant même de procéder à des prises d'ADN auprès de ces dangereux délinquants. Par solidarité, Attac propose à Bizy d'héberger temporairement les chaises détournées. Les Amis de la Terre, Solidaires Finances Publiques, se joignent rapidement aux gangs, ainsi que Patrick Vivray, Edgar Morin, Suzanne Georges, Claude Alfandéry, Alain Caillé.
Les investigations policières semblent soudainement ralentir.
À Bruxelles, le 18 février, une trentaine d'activistes se saisissent du mobilier dans une agence de BNP Paribas Fortis.
Le secteur bancaire, dans son intégralité, devrait passer sous contrôle de la population, devrait être socialisé sous contrôle des travailleurs et des usagers.
À Paris, le samedi 7 mars, Attac passe à l'action.
Les militants prélèvent 5 chaises dans l'agence BNP Paribas du boulevard Voltaire. Il s'agissait de renforcer l'exigence adressée depuis un an à la banque dans le cadre de la campagne Requin, afin qu'elle ferme ses 7 filiales aux îles Caïmans.
Vous nous faites un petit geste de soutien ?
Les chaises HSBC réapparaissent en avril, dans la manifestation contre l'austérité.
Si on doit prendre une image un peu populaire, c'est le nain de jardin de la fin d'Amélie Poulain, en fait. On va le faire tourner.
Dans un campement de 100 logis du DAL, place de la République, à la ferme à Paris de la Confédération Paysanne.
Rebelote le 21 avril. C'est au tour du collectif de désobéissance civile Les Jedi for Climate de faire irruption dans une agence BNP du 12e arrondissement.
Fin mai, Attac restitue 2 chaises aux fonctionnaires du Centre des impôts de Saint-Sulpice à Paris afin de renforcer les moyens de leur lutte contre l'évasion fiscale. BNP Paribas a finalement porté plainte plus de 3 mois après la réquisition citoyenne des chaises.
Cette plainte pourrait déboucher sur un procès où la banque elle-même risque de se retrouver principale accusée.
Mais ne pas bouger aurait mis en danger son image, alors qu'Attac prévoit d'ores et déjà de multiplier les actions dès septembre en vue de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique.
Et reculer, en l'occurrence quitter les îles Caïmans, aurait encouragé le pouvoir citoyen et stimulé les nouvelles exigences.
Au-delà du plaisir non négligeable de jouer David face à Goliath, les faucheurs de chaises posent avec vigueur le débat sur la responsabilité des banques dans la crise sociale et écologique. Lors de la prochaine crise financière, lorsqu'il faudra décider que faire d'un secteur bancaire à nouveau en faillite, les faucheurs de chaises pourraient bien apparaître comme les précurseurs d'une idée désormais incontournable.
Le contrôle citoyen des banques.
Pour répondre à cette menace grave et imminente du dérèglement climatique et de l'évasion fiscale, nous appelons les citoyens et les citoyennes à réquisitionner 196 chaises d'ici la COP21, dans les agences des banques les plus implantées dans les paradis fiscaux. Ces chaises serviront de support à une grande action symbolique en pleine COP21, afin d'inciter les citoyens du monde à entrer dans l'action. Nous appelons à mener ces actions au grand jour, à visage découvert, dans l'esprit de l'action non violente et de la désobéissance civile, en respectant les personnes, tout en affichant notre détermination à faire changer cette situation d'injustice.
« Voilà, et nous voilà de retour après ce petit rappel concernant l'évasion fiscale et la dette et l'austérité. On va se quitter très rapidement, ça me laisse le temps de vous donner l'agenda d'Attaque Marseille. Sachez que lundi 14 à 18h30 au local d'Attaque, il y aura une réunion ouverte à tout le monde du collectif Stop Tafta à Marseille pour discuter des prochaines actions. Vous pourrez retrouver la projection débat du cas d'école de Gilles Balbastre le 22 septembre à 19h à la maison de la région sur la Canebière. Et je vous redonne les deux autres dates. Le 8 octobre, la marche contre l'austérité passera par Marseille avec une action organisée par le collectif Marseille avec les Grecs. Et pour finir, le 3 novembre, ce seront Suzanne Georges et Maxime Combes à la fac Saint-Charles à Marseille qui nous parleront TAFTA et climat. Au revoir.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.